podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de Frontières des séries, directement l'âge d'or des séries françaises. Dans notre dossier du jour, on va vous parler de La Brigade des Maléfices, une série de l'année 1971. À l'époque, c'est évidemment une fiction diffusée sur l'ORTF. 6 épisodes composent ce policier étrange, on ne croit pas si bien dire, car les enquêtes menées par la brigade relèvent justement de l'étrange, du merveilleux, de l'occulte, du surnaturel. La série a été créé par Claude Guimau et Claude Jean-Philippe. Au casting, on retrouve Léo Campion, Marc Lamolle, Jacques François et Jean-Claude Ballard dans les rôles récurrents. Des visages connus de l'époque et des fictions françaises, on le verra, quelques guest stars, jeunes débutants à l'époque, apparaissent au fil des épisodes, Annie Dupéret, Claude Brasseur ou Pierre Vernier. Grâce à l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, on peut aujourd'hui redécouvrir ce classique de la télévision française. L'Institut a en effet édité un DVD dans sa collection Les Inédits Fantastiques, qui publie des séries jusqu'alors impossibles à revoir. La Brigade des Maléfices est donc une série des années 70. Cela demande un peu d'adaptation aux téléspectateurs actuels, notamment car la vitesse de narration était plus lente à l'époque. Cependant, cela reste l'un des chefs-d'œuvre de la télévision française, une série qui a marqué les esprits, et notamment Sarah Sepulcre. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Tilman Villette.
Bonjour.
Alors Sarah, en fait, La Brigade des Maléfices, c'est carrément un précurseur de X-Files ou Fringe.
Ah bah c'est ce que beaucoup de gens disent en tout cas. Bon, je suis pas sûre que les gens qui ont écrit Fringe avaient vu La Brigade des Maléfices, mais bon. On sait qu'en fait, Guillaume Martin Pommier, c'est le nom du héros dans La Brigade des Maléfices, n'est pas tout à fait le père spirituel de Mulder. D'abord parce qu'on sait que c'est Carl Kolchak de Night Stalker qui a beaucoup influencé Chris Carter. Et puis, parce que la plupart du temps, X-Files joue quand même sur des thèmes science-fictionnels. Bon, il y a quelques thèmes fantastiques, on est bien d'accord. Mais La Brigade des Maléfices, par contre, est plutôt du côté du fantastique. Alors, pas à prendre au pied de la lettre, parce que pour ceux qui se souviennent de leur cours de français et de littérature, le fantastique doit laisser planer un doute à la fin et on n'est pas sûr de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce à quoi on a assisté. Ici, ce n'est pas le cas. On sait que ce sont des fées, un vampire, le diable, un fantôme qui sont à l'origine de l'enquête. Donc, il n'y a pas de doute, si vous voulez. On est donc plutôt du côté du merveilleux, comme on pourrait le dire, ou de l'heroic fantasy, en sachant que ça, c'est un fameux anachronisme parce que ça n'existait pas, évidemment, dans les années 60 et 70 en France. Alors, quelques exemples d'intrigues. Des hommes disparaissent aux abords d'un lac qui est appelé la mare aux fées. Un mari tue sa femme, convaincu qu'elle le trompe avec un personnage de feuilleton. Ça doit parler, en fait, aux gens de l'équipe. De ce côté, un peu, j'ai été pris par ma série. Un fantôme est ravi que la maison qu'il hante soit rasée pour construire des HLM parce qu'il adore les nouvelles technologies et tout ça et qu'il se dit que ça, enfin, ça va être une maison intéressante à hanter. Et donc, ces éléments ne donnent pas lieu tout à fait avec des intrigues effrayantes ou mystérieuses. On pourrait jouer sur le côté hanté et faire peur et nous faire un truc à la, je sais pas, Blair Witch Project. C'est pas du tout ça qui se passe. On est plutôt amené à observer le surnaturel tel qu'il se mêle à nos vies quotidiennes. Et donc, on assiste aux choses, on voit les éléments en tant que tels. Ce qui fait que, bizarrement, l'important dans La Brigade des Maléfices, bah, c'est pas l'enquête. D'ailleurs, Pommier sait souvent de quoi il s'agit avant même d'enquêter. C'est même lui souvent qui suscite le fait qu'il est mis sur un cas. Soit il a déjà entendu parler, par exemple, de la mare en question, soit il a la bio complète du fameux vampire, parce que c'est le dernier vampire qui existe et qui sait très bien qui il est, même presque où il habite. Ou alors il connaît le frère du fantôme, qui habitait la maison qui était hantée par le fantôme, et qu'avant de mourir, il lui dit « attention, parce que mon frère, il risque quand même de déconner quand je serai plus là ». Et donc lui sait de toute façon tout, il n'y a donc pas véritablement d'enquête.
Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu aussi devin ou médium, ce Pommier ?
Alors non, mais il est très très bien renseigné. Il a beaucoup de dossiers, il sait qu'en fait autour de cette mare, c'est pas la première fois qu'il se passe des choses et que dans telle année, il y a eu ça. Il sait que le vampire en question a fait parler de lui en 1600 machin, en 1700 machin, en 1800 machin. Donc en fait, c'est quelqu'un qui connaît tout à fait son domaine et ses dossiers et qui a l'œil attiré très vite par des faits divers qui peuvent être expliqués dans la presse. Et donc très vite se dit « ah ça, c'est un truc qui m'intéresse ». Et il a d'ailleurs très souvent compris avant tous les autres. Mais ça, c'est le but de ce genre de série. Ce qui fait que la série donne le temps, finalement, au merveilleux de s'établir. Ce qui est important dans ces épisodes, c'est en fait ces fées, la manière dont elles vivent autour de cette mare. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des couples peuvent petit à petit se déchirer devant la télévision. C'est de voir finalement qu'est-ce qu'un fantôme fait quand il atterrit dans un HLM alors qu'il a toujours vécu dans une demeure poussiéreuse et qui était à la limite de la destruction pour insalubrité. Et donc, il y a une large place qui est faite à ce surnaturel qui se développe. Et beaucoup moins à l'enquête, avec même parfois des intrigues qui ont des portées plus larges. Alors c'est le diable en fait qui utilise le feuilleton TV pour accomplir ses méfaits, et c'est évidemment une parabole sur la télévision, ses dangers, et comment on peut être influencé par les feuilletons. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on connaît et on reconnaît, mais à l'époque c'était assez intéressant. C'est aussi ce même diable qui fournit à certains hommes une femme au foyer parfaite, entendez, obéissante, compétente, gentille, silencieuse. Il leur dit même, c'est la ménagère idéale, le complément indispensable de vos appareils électroménagers. Et la femme est donc l'électroménager parfait parce que c'est l'électroménager sans l'hystérie, les caprices et les humeurs, je cite évidemment. Et donc vous comprenez que là aussi, le but est évidemment de réfléchir un peu sur la place de la femme, un peu comme dans le film de Stepford Wife. Et donc c'est assez bien foutu, il faut quand même avouer les choses, c'est des intrigues qui parfois amènent des choses assez intéressantes. Donc je vous l'ai dit, l'enquête passe au second plan. Et du coup, on peut être un peu étonné de l'emphase qui est mise en début d'épisode sur justement ce fameux Guillaume Martin Pommier. Et je vous propose d'écouter la voix off qui ouvre tous les épisodes.
La brigade des maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent soudain devant l'impossible, l'incroyable... le surnaturel. C'est alors qu'intervient Guillaume Martin Pommier, chef de la brigade des maléfices. Sherlock Holmes de la féerie, Maigret de la sorcellerie moderne, expert en sciences occultes, familier de l'invisible, l'inspecteur Pommier ne refuse aucune des voies ouvertes sur l'inconnu. Il a accepté d'ouvrir pour nous quelques dossiers, de nous faire participer à quelques-unes de ces étranges enquêtes.
Alors on vient d'entendre cette voix off est quand même très théâtrale et elle nous introduit un personnage quand même un petit peu grandiloquent aussi.
Pour ceux qui ont vu Les Rois Maudits, ça fait un peu penser à la voix off des Rois Maudits. À mon avis, c'est un truc d'époque. Bref. Oui, l'emphase est carrément mise sur lui parce que c'est lui qui comprend tout. C'est lui qui nous ouvre les dossiers, c'est lui qui nous permet de les parcourir avec lui. C'est, vous l'avez entendu, le meilleur du meilleur du meilleur. C'est le Sherlock Holmes de la féerie, le Maigret de la sorcellerie moderne, il sait tout, il connaît tout, etc. Et donc du coup, on est un peu étonné de voir que si on chronomètre, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Si on chronomètre, on ne le voit pas beaucoup finalement dans ces épisodes dans lesquels on voit surtout le diable et les couples, les fées et les hommes qu'elles kidnappent, etc., etc. Soit dit en passant, Guillaume Martin Pommier, un prénom pareil, ça ne s'invente pas. Je ne connais pas beaucoup de Guillaume Martin, moi, dans ma vie actuelle. Je vois ça un peu comme dans la totalité de ce personnage un peu original. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas vraiment être chef de la brigade des maléfices et pas être un original un petit peu au moins sur les bords. Alors, il se balade en sidecar rouge et jaune. Il a quand même de la chance d'avoir Albert qui le conduit un peu partout. Hein, Albert étant son fidèle subordonné. Son bureau est dans les combles du Quai d'Orsay. Le générique, en fait, nous montre ça. Il arrive en sidecar, il se parque dans la cour, et puis on voit un panoramique vers le toit, et on voit une petite lucarne ouverte, et ben c'est son bureau. Et donc ensuite, on rentre dans son bureau, et son bureau est absolument tel qu'on peut imaginer le bureau de quelqu'un qui est un spécialiste de la féerie, le Sherlock Holmes de je ne sais plus quoi, parce que c'est encombré de choses absolument inutiles, de gros fauteuils un peu Louis XV... de choses ésotériques, de grimoires, ça a un côté très théâtral, il y a des maps-mondes qui ne servent plus à rien, il y a un perroquet qui traîne, dans un épisode il y a même des vampires ou des chauves-souris, je ne sais pas très bien parce que je ne suis pas une spécialiste, il y a un orgue à tuyaux, je me demande même comment ils ont monté ça au Quai d'Orsay, enfin bref, des livres anciens, etc. Donc c'est un original le monsieur. Et il porte souvent un peignoir ou un kimono ou des trucs en soie comme ça. ou des tenues arabisantes quand il est au bureau, ce qui si, somme toute est assez original. On est quand même au Quai d'Orsay. Donc vous voyez, Guillaume Martin est donc un original.
Ça a quand même un petit côté Sherlock Holmes.
Ouais, c'est un autre genre. Hein.
ouais, mais enfin le peignoir, les objets un peu spéciaux.
En fait, on nous connote le fait que le monsieur, en fait, c'est un original qui travaille sur des dossiers originaux. Mais ça a un côté un peu suranné comme ça aussi en même temps.
Et d'ailleurs, quand on parle de brigade, il est pas censé y avoir plus qu'une seule personne dans cette brigade des maléfices.
Alors ce qui est drôle, c'est l'utilisation du mot brigade dans les séries de la grande époque, comme dans les brigades du Tigre, où ça fait un peu bizarre, hein, c'est un mot qu'on n'utilise plus jamais. Si, ils sont censés être plus, mais j'imagine que c'est... On ne nous explique pas vraiment. On sait que, par exemple, dans les dossiers X, dans... aux frontières du réel, on sait qu'il est relégué dans les caves parce que tout le monde se fiche de lui et qu'il est le seul à faire partie de cette division-là. Là, j'imagine que ça doit être à peu près ça. C'est-à-dire que ça doit être... Ok, gentiment, on leur a donné un homme, donc ils sont deux, et ils sont dans les combles, mais c'est jamais expliqué en tant que tel. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'acteur qui joue Pommier, Léo Campion, il est aussi avec une vie aussi romanesque et exotique que le personnage en tant que tel. Alors, je ne vais pas vous faire toute sa bio parce que je vous jure que dans 3 heures, on est encore là. C'est un chansonnier, un acteur, un humoriste, un caricaturiste, un franc-maçon, le premier objecteur de conscience en Belgique, c'est-à-dire qu'il a refusé de faire son service militaire et de participer à la guerre de quelque manière que ce soit, sauf comme résistant. C'est un libertaire, mais il est aussi régent de l'Institut de Pataphysique et grand maître de la confrérie des chevaliers du Tastefès. Voilà, comme ça, ça vous dépeint un peu le truc. Et c'est lui qui a créé l'hebdomadaire Pan. Alors, moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis, on est quand même face à quelqu'un là que ses contemporains reconnaissaient probablement. Et ça ajoutait un peu. C'est comme quand vous faites jouer le rôle de David Lansky par Johnny Hallyday. On est face à quelqu'un qui est quand même... Vous irez vérifier sa vie exotique sur Internet, etc.
Sauf qu'ici, finalement, dans ce que tu nous dis, son rôle reste plus ou moins anecdotique dans la série.
C'est un rôle qui est anecdotique, c'est un rôle qui est plus d'amener les choses.
C'est le passe-plat.
Oui, un peu. Et je pense que la philosophie de cette série était vraiment de mettre en avant le surnaturel et le merveilleux, et que c'est ce qu'ils font, à travers des enquêtes. Mais finalement, ces enquêtes ne sont pas là pour être si importantes que ça. Et lui, il est souvent là pour être un traducteur pour les téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il connaît les choses. Il connaît les protagonistes, il se souvient des autres fois où il a croisé le diable. Et donc, il explique, ah mais oui, voilà, ceci, 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 et ça, ça veut dire ça, etc. Donc, en plus, il n'est pas du genre à vraiment nous faire un policier d'action. Donc, il est un peu du genre à se dire, j'attends voir ce que la situation va donner, je la laisse se développer. Et au moment opportun, ben, je vais intervenir, je vais arrêter, je vais trouver une personne qui va pouvoir être un témoin, etc. etc. Mais lui, il ne va pas commencer à faire... à rechercher des traces ADN, ou à tirer partout, etc. Faire des dérapages dans les rues avec une voiture rouge et des choses comme ça. Donc il ne court pas, il n'arrête pas, il attend, il a un certain sens du moment important.
C'est un peu l'inspecteur Derrick du Fantastique.
Oui, mais il n'est quand même pas aussi lent que Derrick. Avoué. Alors il a son fidèle associé Albert, dont je vous ai déjà parlé, qui est forcément fidèle, obéissant... parfois un peu bon vis-à-vis de lui. Et évidemment, il s'oppose à sa hiérarchie, sinon c'est pas drôle. On peut comprendre tout à fait qu'un monsieur qui reçoit des plaintes en kimono soit assez mal vu du Quai d'Orsay quand on réfléchit. Alors, la hiérarchie, c'est principalement 2 hommes. Le commissaire principal, qui n'aura jamais de nom, donc c'est le commissaire principal, qui est interprété par Jacques François. Alors, ceux qui se souviennent, c'était le proviseur dans Pause Café. C'est un acteur abonné au rôle d'homme élégant, en cravate, strict, avocat, ministre, etc. Donc voyez un peu le principal, ce que ça peut vouloir dire. C'est pas un créatif, c'est pas un adepte du mystère et c'est pas un petit drôle non plus, sauf quand il se moque gentiment de Pommier, évidemment. Le deuxième homme, c'est le commissaire Muselier, qui est en fait un fabuleux fonctionnaire de l'État tout propre, tel qu'on peut l'imaginer. Pas beaucoup de fantaisie là non plus. Parfois même un peu ridicule à tel point, vraiment, il est tellement propre et enfin voilà que bon. Il déteste Pommier, lui. Et s'il pouvait, il lui ferait tout ce qu'il peut pour le faire chuter. Il lui arrive d'ailleurs de garder des informations, etc., pour ne pas qu'il soit mis sur une enquête. Mais souvent, le commissaire principal, en dernier recours, fait appel à Pommier, sans écouter qui que ce soit. Donc on voit qu'il le déteste, qu'il ne l'aime pas, mais qu'en même temps, ils ne sont pas si compliqués que ça à convaincre de lui donner des choses. Par rapport à Muselier, moi, il y a juste un truc qui ne marche pas du tout. C'est Jean-Claude Ballard qui le joue. Alors ça ne vous dit probablement rien. Moi non plus, ça ne me disait rien. Sauf qu'il a la voix de Mendoza dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Et que là, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, c'est quand même pas possible que ce fonctionnaire de l'État ait la voix du héros des Mystérieuses Cités d'Or, dont toutes les filles étaient amoureuses d'ailleurs à l'époque. Donc là, voilà, je tenais à le dire.
Ça casse un mythe.
Je ne sais pas si ça casse un mythe, mais bon. Et donc voilà. Alors il y a des fois, je ne peux pas m'empêcher de comprendre pourquoi il déteste Guillaume Martin Pommier, parce que bon, si c'est un personnage attachant et tout ce que vous voulez, il a quand même l'art parfois de tirer des plans sur la comète et de faire des théories farfelures sur ce qu'il est en train de découvrir petit à petit. Et je vous propose d'écouter un extrait où il explique qui sont les Vénusiennes à Albert et comment les Vénusiennes se transportent. Et vous comprenez à quel point des fois, ce côté un peu théâtral, ce côté un peu je sais tout, ce côté je vais chercher des éléments là où il n'y en a pas, peut vraiment être énervant.
Vous croyez qu'ils trouveront des habitants sur Vénus, patron ? Enfin, des habitants et des habitantes.
Ah, sacré Albert ! avouez que vous vous intéressez davantage aux Vénusiennes qu'aux Vénusiens.
Ah oui, oui, évidemment.
Une dizaine de kilos.
Oui, ben, il faudra vous faire une raison. Parce que j'ai l'impression que les Vénusiennes n'existent pas, remarquez. Je ne suis pas biologiste.
Alors ils ne trouveront rien.
Réfléchissez, Albert. Si les Vénusiens descendaient sur la Terre, ils y trouveraient des hommes et des femmes, mais ils n'auraient aucune idée de ce que sont nos fées, nos fantômes, nos enchanteurs, notre monde surnaturel.
Et dans l'espace, inversement...
L'espace est peuplé de créatures surnaturelles. Comment voudriez-vous qu'il en soit autrement? Mais elles ne sont pas à la portée du premier astronaute venu.
Donc les Vénusiennes existent.
Oui. Mais pas comme vous le concevez. Ce ne sont pas des êtres de chair et de sang. Elles peuvent, comme nos fées, prendre l'aspect de la vie, mais par intermittence. Par intermittence seulement. Mais oui, Bolo. Ça se précise.
Oui, 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 ça se précise. Il leur arrive d'apparaître.
Oui, d'apparaître et de disparaître de la même façon. Regardez ce tableau. Vénus est la déesse de l'amour. L'élément naturel de l'amour, c'est l'eau. Les psychanalystes, maintenant, en conviennent. Donc, les Vénusiennes, pour apparaître et pour disparaître, utilisent l'eau.
L'eau?
Oui, elles voyagent d'un océan à l'autre, d'un lac vénusien aux berges de la Seine. Elles n'ont pas besoin d'aéroplanes, ni de fusées.
Tu nous parlais donc de guests aussi, et d'acteurs qui ont fait leur début dans cette série.
Oui, et là, dans l'épisode, en fait, on ne voit pas les Vénusiennes, on voit une Vénusienne, parce que bon, ils n'allaient pas envoyer tout le monde sur Terre non plus. Hein. Ils n'ont pas que ça à faire.
Et puis ça demande un certain budget.
Mais non, parce qu'en fait, comme tu l'as entendu, elles voyagent par l'eau, donc c'est facile.
Ah.
Bon, il faudrait quand même qu'on m'explique s'il y a de l'eau sur Vénus, hein. Deux, s'il y a de l'eau entre Vénus et la Terre, mais on ne va pas commencer à chercher des noises à Guillaume Martin Pommier, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. La Vénusienne en question, c'est Annie Dupéret. Alors pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'était la maman d'une famille formidable, vous voyez, celle qui jouait super fort en riant et en criant tout le temps, donc qui surjouait. Eh bien ici, elle ne surjoue pas. C'est juste un peu bizarre de la voir très jeune et avec des longs cheveux blonds, parce que évidemment, les Vénusiennes sont blondes. Donc, voyez.
Et c'est paradoxal qu'elle ne surjoue pas, puisque c'est quand même très théâtral comme série.
C'est exactement ce que je pensais. Je me suis dit, tiens, bizarre.
Elle est à contre-emploi.
Un peu. Enfin, peut-être qu'à l'époque, elle n'était pas encore en contre-emploi, c'était peut-être son emploi normal.
C'est possible.
Voilà. Une deuxième tête qui passe, c'est Pierre Brasseur en Diable. Pierre Brasseur, je ne me suis pas trompée de prénom, c'est le papa en fait de Claude Brasseur. C'est le seul personnage récurrent, outre les personnages de policiers, c'est ce diable qu'on voit dans deux épisodes. On apprend grâce à eux que le diable est vendeur d'électroménager, donc, ou de télévision, et qu'il fait ses méfaits à travers l'électroménager des télévisions, c'est quand même original. Et en fait, Claude Brasseur, son fils, joue dans l'épisode où il y a la ménagère parfaite et tombe amoureuse de la ménagère parfaite, évidemment. Elle se tait, elle dit rien et elle nettoie. Donc, il y a tout pour tomber amoureux d'elle. Il y a quand même quelques rôles comme ça, il y a aussi Pierre Vernier qui va passer où on se dit tiens je connais cette tête mais en même temps ils sont jeunes donc on les reconnaît pas très bien et je trouve que ça c'est intéressant, ça montre que c'était quand même une série qui comptait à l'époque parce que non seulement dans les rôles principaux il y a des gens qui étaient des gens connus et puis ben, on voit qu'en fait au niveau du casting des personnages secondaires non récurrents ils ont quand même pris des gens qui après ont fait des carrières qui ont été celles qu'elles sont. Il reste le côté théâtral parfois qui est un peu lourd, le côté parfois irritant de Pommier dont je vous ai parlé, qui est carrément poseur, théâtral, ampoulé. Tout à l'heure, tu disais, et c'est vrai que c'est la lenteur des récits des années 70, on ne peut pas leur demander non plus de nous faire des clips vidéo, ça n'existait pas encore. Mais je trouve malgré tout que c'est assez intéressant et qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Je pense même à certains éléments extrêmement contemporains avec nous et relativement modernes. Il y a un épisode de vraie autoréférence. Ce qui n'est quand même pas rien dans les années 70. Vous vous souvenez, dans Clair de Lune, ils le font. Ils font parfois on traîne, c'est un épisode trop long, il va falloir qu'on aille plus vite dans la résolution de l'enquête. Et bien ici, c'est un peu ça, sauf qu'on est 10 ans avant. L'épisode sur la télévision, Muselier râle parce qu'il doit partir en planque le soir et qu'il voulait justement regarder son feuilleton favori. Il termine vite la planque et donc on voit Pommier et Muselier qui finissent de regarder l'épisode en question. Et le générique final de l'épisode qu'ils sont en train de regarder dans l'épisode, c'est le générique des Brigades des Maléfices. Et Pommier même dit, affirme qu'il y a vraiment du bon et du mauvais à la télévision, mais que ce feuilleton-là, c'est le meilleur qu'ils aient jamais vu à la télé. Donc je me dis, ça c'est quand même pas mal, quand on réfléchit, de faire un peu ce pari sur « je fais des blagues sur moi-même », ce qu'on verra dans les années 80 ou dans les années 90, seulement après. Alors l'un des couples qui habite le HLM, dans le dernier épisode avec le fantôme, regarde aussi la télévision, et à l'époque, la télévision, vous savez, s'arrêtait à 22h ou 23h, et donc on avait une speakerine qui nous disait « au revoir », et la speakerine clôt le programme en annonçant ceux du lendemain. Et le lendemain, les téléspectateurs pourront voir le 49e épisode des Brigades des Maléfices, qui s'intitule « La sorcière du drugstore ». Il n'y a évidemment jamais eu de 49e épisode, donc c'était une espèce de pari sur l'avenir. Et en même temps, c'est très drôle d'entendre ça sur le 6e épisode. Donc je trouve que pour ces éléments-là, pour aussi pas mal de choses, ça vaut vraiment la peine de la regarder. Je vous en cite encore quelques-unes, juste pour finir. Les tapisseries des années 70... Vraiment.
Qu'on ne regrettait pas dans Life on Mars et qu'on ne regrette probablement toujours pas.
Voilà. Mais disons que visuellement à l'écran, c'est intéressant, ça réveille. Le mobilier en plastique futuriste, ça vaut le coup d'œil aussi, parce qu'évidemment le HLM est meublé au dernier cri. C'est intéressant de se rendre compte donc que le diable vend des électros. Voilà, je vous n'irai plus dans votre magasin d'électroménager favori de la même manière. Et puis c'est surtout très intéressant, Jussif, d'entendre Pommier, qu'on nous a donc présenté comme le Pommier, hein, le grand Pommier, qui face à un vampire qui nous semble vraiment très gentil, parce qu'on a vu des trucs pas gentils avec les vampires, celui-là est très gentil, et qui lui dit qu'il a quand même un petit peu peur. Donc voilà, il y a des choses qui valent la peine dans cette série, et ça n'est que 6 épisodes, donc si vous avez du mal avec le côté théâtral, ça sera vite passé.
C'est là-dessus qu'on referme ce dossier, on se retrouve très très prochainement pour un prochain dossier de Frontières des séries. On vous rappelle que la Brigade des Maléfices est disponible en DVD, édité par Lina.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web, www.afds.tv.